Juste une minute. Enfin, si tu peux venir, Claude. J'ai demandé à Claude de lire un passage, donc si tu veux venir, le temps que j'explique ce que je vais faire, ou tu peux te lever et lire là, comme tu veux. Voilà. Bon, c'est encore moi qui vais prendre la parole tout maintenant, donc ça fait un peu beaucoup sur la matinée pour vous. J'espère que vous êtes contents d'entendre ma voix. Mais j'aimerais vous poser une question. Pendant ce temps de louange, quel est le mot, quelle est la pensée qui vous a fait du bien? Alors c'est ouvert, hein, c'est pas une question à prix, donc vous pouvez dire. Beauté.
Amour.
Présence de Dieu. Grâce.
Consolateur.
Non, il n'y a pas de négatif, heureusement. Hein. Dans la présence de Dieu, tout est beauté, grâce, tout est amour. Et ce que je vais partager ce matin, en fait, j'ai proposé à Rémi de le faire parce que pendant nos vacances, je lisais des passages dans Corinthiens. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à dire sur ce passage-là. Donc, est-ce que Claude, tu veux venir? Tu peux venir? Non, viens le lire, c'est pas important, ne t'occupe pas de ça, viens juste le lire.
Moi, je demandais qu'on passe sur l'écran parce qu'il y a des difficultés pour lire.
Ah ben, si c'est trop difficile, je peux le faire, c'est comme tu veux.
Oui, sur l'écran, j'aurais pu le lire.
Non, ben ça va faire trop de...
Bon, je vais essayer de lire.
Non, ou tu lis, attends, je vais te dire ce que tu lis. Donc, je voulais faire participer Claude parce que nous sommes un corps et le corps participe ensemble. Donc...
L'amour est passion. Eh oui, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe de jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie.
Merci beaucoup, Claude.
Merci à toi.
Voilà. Ce magnifique passage de Corinthiens. C'est quelque chose qu'on entend souvent. L'amour est parfait, l'amour est patient. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment facile à le vivre? Et comment est-ce qu'on peut le vivre? Souvent dans les mariages, on le dit comme un beau texte de mariage. Hein, l'amour est là, l'amour, c'est normal. Moi, je viens de marier ma fille, on voyait l'amour dans les yeux de la mariée et du prince charmant, c'est sûr. Mais est-ce que l'amour... est quelque chose qui dure dans notre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui nous touche tous les jours? Ou est-ce qu'on est des fois un peu... c'est pas grave, on est humain, hein, c'est pas toujours facile. Et je me suis dit, voilà, je vais chercher un petit peu, et en proposant ce passage, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose peut-être à partager ensemble pour nous encourager. Et vraiment... prendre une petite piqûre de vitamine qui va nous aider à persévérer dans l'amour. Et en fait, c'est 1 Corinthiens 13, il suit évidemment 1 Corinthiens 12, ce qui est logique. Et dans 1 Corinthiens 12, on voit que Paul est en train de parler à l'assemblée de Corinthe, à l'église de Corinthe, et il leur fait une exhortation sur les dons spirituels. Et il prend bien sûr l'exemple sur un corps. Et je ne sais pas si... vous vous rappelez ces figurines en bois où on peut bouger la tête, on peut bouger les bras, on peut bouger les jambes. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut mixer, qu'on peut... Ah ben tiens, la tête, je vais la mettre en haut, la jambe, je vais la mettre en haut, la tête, je vais la mettre en bas. Ben, le bras, pourquoi il ne ferait pas une jambe? Ça ne se fait pas. Et dans Corinthiens, Paul nous aide à vraiment voir que le corps est quelque chose qui fonctionne bien tous ensemble. Chacun a sa place. Alors, on n'est pas tous des têtes, heureusement, on n'est pas tous des pieds, heureusement, mais chacun a cette place dans le corps de Christ. Et ce qui m'a frappé à la fin de 1 Corinthiens 12, dans le dernier verset, au verset 31, il est dit « Aspirez aux dents les meilleures. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et donc, il y a toutes... voilà, il faut fonctionner ensemble, il faut être... Mais je vais vous montrer une voie par excellence, dit Paul. Et donc, qu'est-ce que c'est cette voie par excellence? Comment y arriver? Alors, dans 1 Corinthiens 13, il est dit, bien sûr, on commence par le... Là, on a commencé au verset 4, et moi, je vais commencer au verset 1. Il est dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et je trouve assez difficile, parce que c'est vrai qu'on est toujours en action, on fait toujours beaucoup de choses. On va, on donne, on parle, dans l'église on fait plein de choses, et c'est bien. Mais il dit voilà, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et c'est très beau, hein, mais ça ne sert à rien, c'est un son qui part. Et si je fais plein de choses, je prophétise, alors je ne dis pas, il faut prophétiser, il faut exercer les dons dans l'église. Si je parle en langue, il faut le faire, c'est sûr. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, alors c'est des paroles qui vont s'envoler. Et je peux distribuer, et souvent c'est vrai qu'on a envie de donner des choses aux gens qui sont malheureux, à ceux qui en ont besoin. Mais l'apôtre Paul dit encore, ça ne me sert de rien, si je n'ai pas l'amour. Et ça nous incite à se dire, mais qu'est-ce que c'est vraiment cet amour? Comment est-ce que je peux y arriver? Parce que mon petit corps, il peut aimer certaines choses, mais est-ce que c'est suffisant? Comment est-ce que je vais arriver à vraiment faire les choses avec amour et avec la puissance de Dieu dans ma vie? Et donc, on voit que ce magnifique passage qui est bien connu de 4 à 8, on voit que l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. Et ça, c'est magnifique parce que quelqu'un qui donne avec amour, il n'en vit pas. Et ce matin, j'avais vraiment cette image dans ces bras d'amour que le Père veut nous donner ce matin, de la maman qui tient son nouveau-né, qui tient son enfant de 2 ans, qui va vers son enfant de 4 ans qui est tombé, qui va vers son enfant de 40 ans qui est blessé. Cet amour, il est là. Cet amour de maman, il est là. Mais à combien plus forte raison, l'amour du Père est là. Et c'est, peu importe notre âge, je crois qu'on peut témoigner que l'amour du Père est là. Et l'amour du Père n'est pas envieux, l'amour du Père est total. Et je pense que cet amour qui est patient, qui est serviable, c'est quelque chose qui change les choses. Cet amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Je pense que chacun d'entre nous, si on est honnête, on a parfois eu des pensées orgueilleuses, on a parfois eu des... On s'est irrité, enfin je me suis irritée sur certaines situations. Méditer le mal, je ne sais pas si je méditerai le mal, mais parfois dans notre inconscient, on est en train de se dire, mais... Et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Donc encore là, on est mis devant notre propre conscience, et moi, en disant tout cela, je me mets dans ça et je ne vous juge pas, loin de là. Mais l'amour pardonne tout. Est-ce que je pardonne tout? Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et dans le français courant, il dit que l'amour qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. C'est une autre manière de le dire. Mais est-ce qu'en toutes circonstances, je garde la foi, je garde l'espérance et je garde la patience? Mais maintenant, à la fin de ce passage, il est dit « L'amour ne succombe jamais. » Et bien entendu, cet amour-là, c'est cet amour divin qui ne succombe jamais. C'est un amour qui est éternel. Et à cause de ça, je crois que nous pouvons faire confiance à Dieu qui peut renouveler notre amour en toutes circonstances. Il peut nous accorder cette grâce de pardonner. Il peut nous accorder cette grâce d'avoir la foi dans les choses que nous vivons, l'espérance, la patience, parce que son amour ne succombe jamais, il est éternel. Et à la fin de ce passage dans Romains 13, 13, c'est un passage bien connu qui dit « Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. » Mais il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. C'est comme un... C'est quelque chose d'ensemble. On ne peut pas les séparer. Mais je me suis dit, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont passer. On a dit, hein, des fois on parle, mais tout ça, c'est des paroles qui vont s'envoler, qui ne vont pas peser lourd dans la balance du Seigneur, je pense, quand on se présentera devant lui. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites. Parce qu'est-ce qui va rester? Je crois que ce qui va rester, c'est ce qu'on aura fait dans l'amour, dans cet amour pur, dans cet amour sincère. Et cet amour vient de Dieu. Mais je me suis dit, cet amour, il vient d'où? Et bien sûr, vous le savez, cet amour est ancré dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui-même, il est le reflet de cet amour qui est décrit là-dessus. Quand on voit ce passage de l'amour que Claude a lu, c'est vraiment le reflet de qui est Jésus. Lui, il était parfaitement dans cet amour. Il était tout, il pardonnait tout. Il ne succombait pas, il ne disait pas du mal. Jésus était parfait dans cet amour. Et je me suis dit, ben, si Jésus était parfait dans cet amour, c'est qu'il veut qu'on suive son modèle. Il veut que nous lui ressemblions. Il veut qu'on marche avec lui. Et j'aimerais vous donner ce passage d'Éphésiens 2, 4 à 10 qui dit « Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, on l'a dit tout à l'heure en prenant la Sainte Cène, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a donné une position pour regarder l'ennemi. On est au-dessus de l'ennemi, parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est magnifique. Moi, je fais de la poterie, et quand on crée avec la poterie, on est là, on prend soin, on nettoie, on enlève un bout, on remet un bout, jusqu'à ce qu'il nous semble que, bon, mes poteries ne sont jamais parfaites, mais je le fais jusqu'à ce que je me dis, ben, tiens, là, ça va donner quelque chose. Ben, imaginez-vous que Dieu, vous êtes cette terre, chacun d'entre vous, et Dieu est en train de vous modeler. Il dit, ah, mais attends, il faut que j'enlève un petit bout de là parce que ça ne va pas trop. Ah, mais attends, je vais rajouter un peu de ça parce que ça va lui donner plus de beauté. Vous êtes cet ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est lui qui vous a préparé pour faire des bonnes œuvres. Et ça, c'est rassurant de savoir que nos œuvres sont utiles. On ne doit pas les faire juste par nous-mêmes, courir partout, faire plein de... Mais il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées. Et de chercher quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu a mises devant nous. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et ça, c'est magnifique. Chacun de vous, on peut se regarder les uns les autres et nous dire, tu es l'ouvrage du Seigneur. Il t'a créé comme tu es. Il t'a créé avec ton grand nez, avec tes beaux yeux. Il t'a créé avec tes grands pieds, avec tes petites mains. Il t'a créé, peu importe, Dieu t'a créé. Alors c'est vrai qu'on est souvent abîmé par ce monde on est dans un monde pécheur et nos corps sont parfois abîmés. On souffre. Mais la création de Dieu est merveilleuse. Et à Éphésiens 5, verset 1, il est dit « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime. » Ce matin, Dieu vous a dit plusieurs fois, je crois. Nous a dit plusieurs fois « Je vous aime. » Parce « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique, on a chanté, hein, que je sois le parfum de Dieu, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Voilà, nous avons une source inaltérable, une source de vie en Jésus pour être remplis de son amour, de son pardon. Efforçons-nous. Je n'ai pas dit, ah ben voilà, vous l'êtes. Non, efforcez-vous, on doit y travailler. Et comment faire? Comment faire dans cette grâce qui n'est pas... Cette grâce n'est pas sans action, comme je l'ai dit. On n'est pas là à rester sur notre chien en disant, on est parfait, on reste là, comme ça, on a une bonne odeur et point à la ligne. Non, il y a des choses dans lesquelles nous devons travailler. Et si on continue dans 1 Corinthiens, on prend le chapitre suivant, 1 Corinthiens 14, il est dit, recherchez l'amour. C'est le premier verset. Recherchez l'amour. Et après, il nous dit, aspirez aux dons spirituels. Être comme un orchestre, tous ensemble, bien réunis. Et quand on voit ces débuts d'orchestre, là, quand on regarde des fois, là, moi, je n'ai jamais été dans un grand concert, dans un grand théâtre de concert, mais quand on voit la télé qui se met tous... Moi, je n'y comprends rien. Mais quelqu'un à l'oreille pour savoir... Moi, je me dis, mais comment ils arrivent à savoir que c'est leur note? Moi, j'accorde ma guitare, j'ai un petit instrument qui me dit, ça, c'est bon, petite lumière. Mais eux, ils sont tous dans un brouhaha pas possible. Mais au bout de 30 secondes, l'orchestre est accordé. Ben oui, mais pour toi, c'est évident, pour moi, ça ne l'est pas. C'est ça la différence du corps de Christ. Il y en a qui ont des oreilles sensibles. Moi, j'ai des grandes oreilles, mais elles ne sont pas sensibles. Non. Mais je veux dire que par là, l'aspirer aux dons spirituels, c'est quelque chose où... Voyez, il y a toutes sortes, hein, ils les décrivent. Vous pouvez relire tous ces passages de Corinthiens. Mais voilà, j'ai marqué vraiment être comme un orchestre qui est bien accordé au même rythme et qui joue en harmonie les uns avec les autres. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va jouer en avant-première, il va jouer une grande partie. Et peut-être qu'il y a une personne qui sera derrière à ma petite... Il faut le faire au bon moment. Si on ne le fait pas au bon moment, c'est la catastrophe. Donc chacun de nous, on a un instrument. On est un instrument. Et si chacun de nous joue au bon moment, je pense qu'on peut vraiment être en harmonie. Et je crois que Dieu nous apprend à jouer tous ensemble. Et gloire à Dieu pour ce qu'on arrive à faire tous ensemble dans notre faiblesse et dans nos différents dons. Je crois que Dieu est en train de préparer son Église à être en harmonie avec ce qu'il veut. Et après, il dit, cherchez donc les dons spirituels pour l'édification de l'Église afin de les avoir en abondance. Là aussi, ça m'a frappé, c'est que il y a une question toujours d'abondance avec Dieu. Il ne veut pas juste un petit peu. Et ça m'a remis en question. Je dis, mais est-ce que moi, je mets en abondance les dons que Dieu... Est-ce que je les offre aux gens? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans cette abondance que Dieu veut me donner et que je peux transmettre aux autres? Et après, il dit aussi, cherchez avant tout à transmettre les messages divins. Donc, que nos bouches soient là pour transmettre les messages divins, au verset 39. Et bien sûr, quand je continue encore dans Corinthiens, on va aller jusqu'au chapitre 16. Mais dans le verset 15, Paul il est en train de mettre un peu un cadre dans ce qu'il veut dire. Et il dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés, autrement vous auriez cru en vain. Et je me suis dit, là, je disais à Robin venant, pour moi, il y a la bonne nouvelle, l'évangile ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui étaient, qui ne sont plus. Il y a des choses qui pour nous étaient évidentes il y a peut-être 2 ans, qui aujourd'hui ne le sont plus. Quand on voit l'évolution au niveau de nos enfants, il y a des choses qui passent terriblement vite. Et tout d'un coup, il y a une année, on n'aurait jamais pensé qu'on ferait un culte avec des masques, par exemple. Ça nous a surpris, ça nous a pris. Et demain, on ne sait pas si on aura encore le masque. Mais c'est quelque chose qui a été imposé sur nous et qui nous a... On a tous été englobés dedans, on n'a pas eu le choix. Et il y a beaucoup de choses où... On voit même dans l'éducation des enfants qui... Ça va tellement vite que ça change énormément. Et comment est-ce que l'Évangile va suivre ce changement? Et on essaie d'adapter, on en parlait au groupe Contact vendredi soir. Et je dis, mais comment est-ce qu'on arrive à atteindre celui qui est à côté? Comment est-ce qu'on arrive à atteindre celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'on arrive à atteindre celui qui a une connaissance, mais qui n'a pas trouvé l'essence même de Jésus-Christ? Et on le voit dans nos groupes contacts, souvent, Les gens ont de la peine même à parler de Jésus. Ça prend beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, on commence à voir qu'il y a un peu plus d'aise. Et ah ben oui. Donc, je me suis dit, mais voilà, l'évangile que je vous ai annoncé, Paul a annoncé un évangile. L'évangile ne change pas. Cette parole de Dieu, elle a été transcrite plusieurs fois. On a amélioré le français. On a même du français courant. Mais la base de l'évangile ne change pas. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est vivant. Et dans cet évangile qui est là, au verset 3 justement d'un Corinthiens 15, il dit « Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. » Donc c'est vraiment important de voir que notre foi est vraiment basée sur quelque chose qui est réel. Et il dit « Il a été vu par plusieurs disciples, plus de 500 frères. » Donc des hommes l'ont vu, nous on ne l'a pas vu, mais il y a des hommes qui l'ont vu. Il y a des disciples qui l'ont vu. Lorsque Jésus est né, il y a passé 2000 ans, il était là. Il était réellement un homme sur cette terre. Et ça, ça ne change pas. On a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau chercher plein de choses, mais il y a une réalité qui était là. Et cette foi que nous avons en Jésus-Christ, elle doit être inébranlable. Parce que c'est la vérité. Alors on peut avoir différentes manières de l'exprimer. Je pense que nous, on rencontre pas mal de gens qui viennent de tous bords avec des idées de New Age, des idées de Bouddha, des idées de dinde, des idées de ci, de ça, de là. Mais écoutons-les, soyons attentifs à ce qu'ils disent, mais ayons la sagesse dans nos réponses, pour qu'on puisse vraiment donner l'essentiel du message de Christ, qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel du message de Christ. Notre foi et notre espérance, notre amour pour Jésus, sont basés sur une vérité inébranlable. Et bien sûr, il y a ce beau passage de Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et en français courant, il est dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est ce que nous faisons. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Et donc, est-ce que notre foi est forte aujourd'hui pour être sûr de ce que Jésus a fait pour nous? Et je pense que la foi, on peut la demander, on peut demander la sagesse. Hein, il est dit dans Galates, si vous manquez de sagesse, alors demandez-la. Et on a tous besoin, je pense, à chacun notre niveau, d'avoir la sagesse de Dieu. Je pense que Dieu a préparé certaines personnes pour aller plus profondément dans la parole. Il y en a d'autres qui seront plus amenées à juste ouvrir leur maison pour accueillir quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Mais qu'on ait la foi et l'assurance de notre salut en Jésus-Christ pour le partager autour de nous. Et bien sûr que souvent on se sent incapable, hein, souvent on se dit, mais comment on va y arriver? Quand on ouvre un groupe contact, qu'on a des nouvelles personnes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment est-ce qu'on va faire? Quand quelqu'un arrive dans l'église qu'on ne connaît pas, mais comment est-ce qu'on va lui parler à cette personne? On ne sait rien d'elle, mais comment est-ce qu'on peut l'approcher? Et je crois qu'il y a tout un doigté de Dieu qui veut nous instruire là-dedans et qui va nous donner la grâce de parler avec sagesse et pas au premier ressort dire « Ah ben non, ben toi t'es pas baptisé, d'accord, ben écoute, on a tout le plan du baptême, viens, on va tout... » Non, il y a d'autres choses qu'il faut adapter, surtout dans cette génération, dans cette période où nous vivons. Et on s'est un peu pris peut-être hors contexte, mais Paul disait au chapitre 15 toujours, au verset 10, donc, je vais lire à partir du verset 9 ou 8, après eux tous, donc il parle des apôtres, il s'est fait voir à moi-même, donc Paul dit Dieu s'est fait voir à lui-même comme à l'avortant, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je me suis dit, mais quand on est découragé et qu'on se dit, mais j'y arriverai pas, comment est-ce que je peux arriver au standing que Dieu veut pour moi? Comment est-ce que je peux arriver à parler à tous ces gens qui m'ignorent et qui ne savent rien de Dieu? Il dit, mais voilà Paul qui a persécuté l'Église. Il est devenu cet apôtre que Dieu a utilisé puissamment, mais il s'est souvent senti faible. Il s'est souvent senti dans un, Voilà, dans le désespoir, parce qu'il dit, mais la tâche est souvent trop grande. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que les autres. Et je pense que chacun de nous, on peut, quand on se sent fatigué, quand on se dit, ben, à quoi bon ? Non, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Et à la fin du chapitre 15, il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Et ça, c'est un verset que j'avais reçu quand, pour ma première fois, j'étais partie avec Horizon au Maroc. Je cherchais ma voie, je ne savais pas ce que je devais faire. Je devais partir dans un collège biblique, mais ça n'a pas marché. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que je dois reprendre mon métier ? Parce que je travaille déjà pour Dieu dans quelques œuvres. Est-ce que je dois repartir, faire ce que j'ai appris, ou est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand j'ai lu ça, ainsi, mes frères bien-aimés, j'aurais pu dire ainsi, Sylviane, sois ferme, inébranlable, progresse toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous êtes sur un carrefour de vos vies où vous ne savez pas trop qu'est-ce que Dieu demande de vous, cherchez sa face et écoutez ce qu'il a à vous dire. Mais quelle que soit la place dans laquelle il vous met, même si c'est dans un travail séculier, moi je vois ma fille, elle fait un travail formidable là où elle travaille, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc restez ferme dans votre foi, restez ferme, demeurez ferme pour qu'il puisse vraiment travailler au travers de vous et bénir ceux qui vous entourent. Mais Paul nous encourage vraiment dans cette œuvre. Et je crois que ce matin, j'aimerais aussi, on est tous des chrétiens qui avons roulé notre bosse, comme on dit. On a tous plus ou moins travaillé dans différentes œuvres, dans différentes églises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on veut encore faire confiance à Dieu et dire, voilà, sois ferme, inébranlable dans l'œuvre du Seigneur, parce que c'est pas en vain. Et dans le chapitre 16, 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit encore, veillez, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Moi, j'aimerais bien dire, soyez des femmes aussi. Hein. Il y a beaucoup d'hommes dans ces chapitres, mais bon, on est des femmes aussi. Fortifiez-vous, que parmi vous, tout se fasse avec amour. Il revient encore sur ce thème de l'amour, de la foi. Soyez fermes dans la foi. Et c'est souvent la foi qui nous manque quand on entreprend un projet. Est-ce que j'ai la foi que ça va aboutir ? Est-ce que j'ai la foi que, cherchant... Et moi, je me mets dedans. Hein. J'ai besoin, je suis un peu un carrefour. En ce moment, je suis devenue maman sans enfant à la maison. Ça change la vie, il y a d'autres choses. Et c'est vrai que c'est un passage. Et dans ce temps, des fois, je me dis, ah ben, j'ai fait ma course, je vais tricoter, je vais lire, je vais... Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur pour ma vie ? Donc je le dis avec toute humilité. Il est évident que Paul parle à l'église de Corinthe. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Jésus, lorsque son amour nous envahit, lorsque nous demeurons près de lui, et on l'a chanté, je veux être près de toi, alors ça doit aussi affecter nos relations dans nos familles, dans notre entourage, dans nos collègues de travail, dans les gens qu'on rencontre au magasin. Je crois que Dieu est là partout et il veut vraiment nous encourager à être des témoins de sa lumière. Donc dans l'Église, hein, on voit, il nous a vraiment soudés ensemble pour être un corps qui fonctionne bien, avec différents privilèges de recevoir ses dons pour l'Église. Mais à l'extérieur, on est aussi appelé à transmettre ce message de l'Évangile. Et c'est amusant, l'autre jour, j'étais au marché samedi matin. J'ai ma petite voisine qui vient aussi au marché. J'avais envie d'acheter un chou rouge pour cette semaine. Et puis, je la regarde, puis je dis, ah ben écoute Fabienne, tu aimes le chou rouge ? Elle me regarde, elle me dit, bah, parce que j'ai jamais mangé du chou rouge, peut-être ma mère en a fait une fois quand j'étais enfant. Je dis, bah écoute, je vais acheter un chou, moi ça me fait beaucoup, bah, je t'en donne un quart, comme ça, elle me dit, mais comment je le fais ? J'ai dit, ah, tu fais comme ça. Après, je me dis, mais c'est ridicule. J'ai dit, bah, écoute, quand je le ferai, mon chou, tu viendras manger le chou à la maison. Et elle me dit, ah, d'accord. Et puis, une demi-heure après, elle sonne à ma porte, et c'est Rome qui va, elle nous apporte deux. Elle a fait du smoothie. Elle nous apporte deux smoothies. Je dis, ah, bah, c'est gentil, merci. Et donc, Je me suis dit, ça c'est un geste que Dieu... Pourquoi j'ai demandé si elle aimait le chou? C'est pas la première fois que j'achète du chou, hein. J'aurais pu en proposer un. Mais c'était juste ce petit clin d'œil où je me dis, mais est-ce qu'on est attentif à ces petites choses que Dieu nous dit de faire, qui va changer la vie de quelqu'un, qui va l'aider à être différent dans la journée, qui va l'aider à... Et donc, voilà, j'ai encore mon chou rouge. Si vous aimez le chou, venez, dites-moi, et puis je vous inviterai à manger mon chou rouge. Donc voilà, et cette petite, pour vivre tout ça, j'avais juste vraiment ce verset de Galates 5, 22 qui est venu à mon esprit. Et je me dis, on a besoin, avant l'hiver, souvent, si vous allez chez le médecin, des fois, il vous donne une pipette là, de vitamines pour l'hiver. Et donc, ma pipette de vitamines pour vous aujourd'hui, c'est, mais le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est un peu un reflet de ce passage de Corinthiens où il reprend un petit peu les mêmes adjectifs, les mêmes termes. Amour, c'est des noms, pas des adjectifs. Mais amour, joie, paix, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me manque dans tout ça? Qu'est-ce que je dois améliorer? Quand c'est qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma petite pipette? Donc j'aimerais vraiment vous encourager à prendre peut-être une minute de réflexion sur ça et de vraiment demander au Seigneur de vous aider à renouveler ce qui a besoin d'être renouvelé. Et surtout, c'est pas dans tous les jours, peut-être dans tous les jours on dit on a ça, mais des fois dans des situations particulières il nous manque quelque chose. Des fois quand on est confronté à quelque chose qui nous touche, qui nous pique, il y a des fois des choses qui sont dures. Il y a des choses qui nous atteignent. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui me manque? Et s'il me manque quelque chose dans ces vitamines, alors demandez-les à Dieu qui vous donne ce dont vous avez besoin. Voilà. On peut remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, prends pitié de moi. Je suis faible, mais je suis aimée. Et dans ton amour, tu peux me donner tout ce dont j'ai besoin. Et que dans cette semaine, on puisse vraiment essayer de... Voilà, quand on est piqué, on sait quand on est piqué. C'est comme quand on fait la couture, on sait quand l'aiguille pique le doigt. Eh bien, essayons de voir ce qui nous manque et demandons au Seigneur. Et c'est dur de le dire, moi je sais que je risque d'être éprouvée la semaine prochaine. Je risque de me dire, ah ben tiens, t'as dit ça, mais... Donc, je penserai à vous aussi. Voilà, j'aimerais vous laisser ce que Jésus a dit au docteur de la loi dans Matthieu 22, 37 à 40. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans 1 Jean 3, 16, il nous rappelle à ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc devant le Seigneur, on peut se positionner parce qu'on a dit « je veux être près de toi ». Jésus nous accueille les bras grands ouverts. Il sait ce dont nous avons besoin, il connaît nos souffrances, il connaît nos fardeaux. On a chanté « je vais les déposer à tes pieds ». Au pied de la croix, son sang nous purifie de tout péché, son sang est là pour nous laver, pour nous fortifier, ses vitamines sont là pour nous donner la vie, pour nous renouveler si on est fatigué, pour nous guérir si on est malade. Bien Seigneur, que vraiment nous puissions vivre dans cette réalité de ton évangile. Seigneur, tu ne nous as pas dit les mensonges, lorsque tu nous promets que tu seras avec nous tous les jours, tu l'es. Rien n'échappe à ton regard, Seigneur. Rien n'échappe aux souffrances que tu as eues pour nous sur la croix, que tu as portées sur la croix. Car tu nous dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous voulons, Seigneur, venir à toi. Nous voulons avoir la foi, l'espérance et l'amour pour vivre chaque journée dans tes promesses, dans ce que toi, tu veux nous donner. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés ici, pour ceux qui ne sont absents et qui auront peut-être ce message d'une autre manière, mais que ton amour nous envahisse, Seigneur. Que ton amour demeure sur nous et nous pousse à être fermes, inébranlables, et que dans ton Église, nous puissions demeurer fermes, inébranlables, lorsque nous avons des questions par rapport à ce temps que nous vivons, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de faire comme toi tu le désires dans ce temps. Tu sais t'adapter au temps, Seigneur. Ton message s'adapte à cette société d'aujourd'hui. Et donc aide-nous, Seigneur, à être renouvelés dans notre engagement par rapport à ce monde perdu. Aide l'Église à être accueillante dans ce monde où les gens viennent avec plein de fardeaux, plein de difficultés, des fois tellement avec plein d'émotions différentes, mais garde-nous, Seigneur, dans ta vérité. Seigneur, que vraiment ta grâce nous accompagne. J'aimerais vraiment dire que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi, que l'amour, la paix soient donnés aux sœurs avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Amen.